Rachid Nekaz, bonjour donc et merci de nous accorder cette interview. Vous êtes vous-même chef d'entreprise, vous avez 34 ans, vous aurez 35 ans si je ne me trompe pas en 2007. Vous êtes originaire de Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. Vous avez 11 frères et sœurs et des parents algériens, c'est ça, j'ai bien résumé?
Tout est parfait jusqu'à maintenant.
Bon, c'est là que ça va se compliquer. Vous êtes aussi responsable associatif, entrepreneur, écrivain, passionné de paix, on reparlera des livres tout à l'heure. Vous êtes surtout candidat à la présidentielle. La première des questions que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi et qu'attendez-vous de cette candidature? Pourquoi vous présentez-vous?
J'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle, pas par caprice, mais parce que depuis 2002, je milite pour qu'une proposition de loi inscrive tous les citoyens de façon automatique sur les listes électorales. Donc depuis 3 ans et demi, je fais le tour de France pour recueillir les soutiens des élus, que ce soit des députés, des sénateurs et des maires. Et depuis 1 an et demi, donc, j'ai réussi à convaincre 414 députés de toutes tendances politiques confondues et 2417 maires. Donc fort du soutien de 72% de l'Assemblée nationale, je me suis dit que cette loi va être non seulement discutée, mais votée à l'Assemblée nationale. Eh bien, pas du tout. Il s'avère que depuis donc 1 an et demi, le gouvernement fait barrage pour que cette loi ne soit ni discutée, ni votée. Donc à partir de là, j'ai deux solutions. Ou bien je baissais les bras, ou bien je me suis dit, je vais me présenter devant tous les électeurs français pour dire qu'il faut changer les choses pour que nos droits politiques de citoyens puissent être reconnus.
D'accord, c'est-à-dire que cette candidature, c'est en fait une tribune pour faire passer vos convictions, ou est-ce que c'est réellement une quasi-certitude que vous arriverez en tout cas jusqu'à l'échéance du vote? Est-ce que vous avez la volonté d'être élu, ou est-ce que c'est faire passer ces idées?
Le résultat d'un engagement citoyen qui date d'une quinzaine d'années, et c'est surtout le résultat d'un diagnostic sur les blocages de nos institutions, de notre pays, et sur l'analyse qu'aujourd'hui l'élite politique qui gouverne la France depuis 30 ans n'est plus à la hauteur des défis qui se présentent. Donc oui, c'est une candidature volontariste, oui, j'irai jusqu'au bout, donc là je suis déjà 232 maires qui m'ont fait une promesse de signature, donc il en faut 500 pour être candidat officiel, et donc oui, je vais défendre mes idées, mes convictions auprès de tous les Français pour être au service de tous les Français.
D'accord, alors on va essayer de faire connaissance avec votre programme, votre vision, vos priorités. Avant ça, la question qui anime ce dossier que je suis en train de réaliser actuellement sur les petits candidats, c'est vous, que répondez-vous à ceux qui disent absurde de tenter de se présenter et qui d'ailleurs traitent ces candidatures de farfelues, disant qu'elles décrédibilisent la fonction présidentielle? J'ai lu ça encore aujourd'hui sur un commentaire sur l'article que vous avez publié dans une tribune libre sur AgoraVox. Quel est votre regard là-dessus, votre réponse, parce que c'est quand même une accusation grave, et notamment sur le fait que ça pousse à une dispersion des voix?
Vous savez, ce qui s'est passé en avril 2002 a provoqué malheureusement deux réactions qui, à mon sens, ne sont pas justifiées. Sous prétexte qu'il y a eu un candidat d'extrême droite au deuxième tour, on a fait pression sur les électeurs pour qu'ils orientent leur vote vers des candidatures, j'aimerais dire, classique, majoritaire.
Ce qu'on appelle le vote utile.
Le vote utile. Le vote utile est la plus grosse supercherie des enseignements de ce qui s'est passé en avril 2002. La démocratie, c'est voter pour des gens, pour des candidats qui partagent des idées, des convictions fortes et par rapport auxquelles nous avons ou nous développons une adhésion. Et c'est valable aussi bien au niveau des élections locales, municipales, législatives ou nationales. Et la chose aussi la plus importante dans une démocratie, c'est que vous êtes à la fois capable de voter pour une personne, mais vous êtes aussi, vous avez le droit d'être candidat, justement, et vous présenter devant les électeurs, parce que vous considérez que vous avez un programme, des idées, qui peuvent être une solution différente de celle proposée par les autres. Donc le fait de dire que voilà, nous avons une multitude de candidats qui se présentent aux élections, et que ce n'est pas bien, ou que ça risque d'être dangereux, je considère que c'est une terrible supercherie et c'est une atteinte à la liberté des citoyens français.
D'accord. Quelle est votre priorité, donc, si j'ai bien compris, c'est l'inscription automatique de tout le monde sur les listes électorales?
Depuis, comme je vous l'ai dit, une quinzaine d'années, je milite non seulement pour inscrire les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales,
et les pas seulement les jeunes,
pour que tous les citoyens puissent aller voter, essayer de développer une conscience à la fois citoyenne et politique. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, que ça ne marche pas. C'est la raison pour laquelle, depuis 3 ans et demi, j'ai souhaité que tous les citoyens français puissent avoir leur carte d'électeur. Parce qu'on ne peut pas laisser 3,2 millions de citoyens français sans carte d'électeur. Donc après, évidemment, c'est leur responsabilité d'aller voter ou de ne pas aller voter. Et pour cela, les hommes politiques, ils appartiennent à des partis politiques ou non, se se doit de les intéresser, de leur donner envie d'aller justement dans les bureaux de vote et déposer leur bulletin. Donc ma priorité, au-delà de l'inscription automatique sur les listes électorales, c'est d'essayer de proposer un projet politique, une vision pour les Français, et ma vision se résume en deux dimensions. C'est à la fois une philosophie de la responsabilité et une philosophie de la responsabilité, de la solidarité et une philosophie de la responsabilité. Et donc je considère, première chose, qu'il faut augmenter le pouvoir d'achat des Français. Parce que si on n'augmente pas le pouvoir d'achat des Français, ils ne vont pas croire, ils ne vont pas s'investir davantage dans la vie économique et sociale
tout
du
à fait
pays.
On va y revenir, oui. Et en quelques mots, comment qualifieriez-vous votre programme pour l'avoir parcouru? Il y a beaucoup de références à la société citoyenne, Internet, à l'usage de l'Internet, et c'est votre environnement professionnel d'ailleurs, hein, je rappelle que vous êtes chef d'entreprise dans cet univers. Comment, en quelques mots, il est social, il est libéral, il est...
Vous savez, quand on évolue dans le milieu des nouvelles technologies, on ne se pose plus la question de savoir si on est de gauche, de droite ou du centre, ça ne veut rien dire. La question qui se pose, c'est est-ce qu'une idée, elle est bonne, elle est pertinente, elle est efficace, et si elle est en mesure de régler un problème donné. Donc moi, en tant que...
Ça reste un peu de la langue de bois, mais ça, pour le coup, tout le monde est à peu près d'accord sur cette idée-là aujourd'hui.
Tant mieux qu'on puisse dire qu'aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si quelqu'un est de gauche ou du centre ou de droite. La question aujourd'hui est de savoir si un projet, une idée, est capable d'apporter une solution par rapport à un problème donné. Et ce n'est pas la langue de bois de le dire et de le réaffirmer. Et je continuerai de le réaffirmer. Donc moi, par rapport à cette élection présidentielle, je me pose la question de est-ce que les nouvelles technologies peuvent améliorer les problèmes des gens, que ce soit dans le domaine social, de l'emploi, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la politique, des institutions. Donc c'est comme ça que je me pose des questions, parce que nous avons un superbe outil, et à mon sens, les nouvelles technologies ne sont pas encore utilisées au maximum de leurs possibilités. Donc c'est la question que je me pose, et c'est les réponses que j'essaie d'apporter, mais évidemment, ce n'est qu'une base de travail. En aucune façon, en aucune manière, je prétends avoir des solutions à tous les problèmes.
Je pense également qu'Internet est une chance pour la démocratie. On va justement faire le tour de votre programme sur quelques questions précises, en essayant de faire des réponses le plus courtes possible. Hein. Je me bats contre ça, mais sinon on va perdre des auditeurs si on est vraiment trop long. Et puis on va essayer de démontrer que ce n'est pas un programme virtuel, même s'il est très lié à l'Internet.
Bien sûr, tout à fait.
Quelques points précis donc sur les réformes que vous souhaiteriez engager. L'emploi, on le voit partout, c'est la préoccupation numéro un aujourd'hui en France. Le marché de l'emploi, les problématiques de chômage, quelles sont vos solutions, votre programme sur cette partie?
Par rapport à l'emploi, ma position est très simple. Nous évoluons dans un régime où c'est le salarié qui est au centre du dispositif de l'emploi. Moi, je considère qu'aujourd'hui, dans une démocratie moderne, il faut absolument que le salarié soit pas simplement salarié, mais aussi actionnaire de l'entreprise dans laquelle il va évoluer. C'est la raison pour laquelle, pour lutter contre le chômage, je propose de mettre en place un dispositif que j'appelle le prêt-emploi à taux zéro. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État va garantir un prêt-emploi que chaque citoyen à 18 ans peut souscrire. Donc il va dans une banque et la banque va lui faire un prêt à hauteur de une année de salaire au SMIC. Avec ce prêt-emploi à taux zéro, il va postuler, par exemple pour un emploi d'assureur dans une entreprise, en qualité et de salarié et d'actionnaire. Ce qui veut dire qu'avec cette avance en trésorerie qu'il va apporter à l'entreprise, il va pouvoir prétendre aux bénéfices de l'entreprise en question. Et ce dispositif va permettre justement aux salariés actionnaires d'être partie prenante de la vie de l'entreprise et donc de se battre, de travailler pour l'intérêt de l'entreprise et donc pour son propre intérêt.
D'accord. Et pour vous, c'est pas être pieds et mains liés au domaine de la banque assurance déjà omniprésent et que commencer dans la vie à crédit?
Vous savez, ce que vous appelez à crédit, moi j'appelle ça la confiance. Aujourd'hui, on ne fait plus confiance aux gens. Aujourd'hui, nous avons 3 millions de personnes qui sont chômeurs. Et ben, ces personnes-là, plus personne ne leur fait confiance. Quand vous êtes chômeur, et ben, quand vous allez dans une banque pour faire un crédit pour une voiture ou n'importe quelle autre chose, ben, on ne vous donne pas parce qu'on ne vous fait plus confiance. Donc la chose la plus essentielle à remettre en place, c'est de la confiance. Et moi, je décide de faire confiance aux chômeurs pour qu'ils puissent avoir un travail et pour que les entreprises voient un intérêt à les embaucher. Donc, si je dois résumer, la philosophie de cette idée, c'est mettre de la confiance dans cette société.
D'accord. Vous parliez tout à l'heure du pouvoir d'achat, et de la hausse des prix, moralité. Concernant l'aide aux plus démunis, concernant les inégalités, suivant comment on les prend, croissantes ou pas croissantes, quelles sont vos propositions concrètement ?
Alors, je considère qu'aujourd'hui, il faut augmenter le pouvoir d'achat. Alors, comment je compte le faire ? Je compte le faire en augmentant donc de 22% donc les salaires de tous les Français grâce à la suppression des charges sociales salariales. Donc, ce sont les charges sociales que payent les salariés par le biais de l'entreprise. Et comment on arrive à financer cette augmentation de salaire de 22% ? Tout simplement en augmentant de façon pondérée la TVA de 3,5%. Donc, je résume, en augmentant de 3,5% la TVA, ça nous permet d'augmenter tous les salaires de 22%.
Avec une redistribution peut-être plus juste alors dans ce cas-là, effectivement.
Voilà. C'est-à-dire qu'au niveau, au niveau de la TVA, donc ceux qui ont des revenus plus importants paieront une TVA un peu plus élevée que ceux qui ont des revenus moins élevés.
Les déficits publics sont astronomiques, la dette de l'État éclate. Quelle solution, quelle proposition concrète pour s'en sortir ?
La chose la plus essentielle à mettre en place pour essayer de lutter contre le déficit public, c'est d'une part de ne plus voter chaque année un budget déficitaire comme c'est le cas depuis 20 ans. Il faut savoir que en 1981, la part de la dette sur le PIB était de 15%, aujourd'hui elle est de 33%. Donc il y a eu une dérive des dépenses publiques. La deuxième chose, c'est de faire un audit de toutes les dépenses de l'État et savoir où on a besoin de mettre plus de fonctionnaires ou où on a besoin d'en dégager, j'aimerais dire. Le troisième élément, c'est essayer de mettre en place un impôt volontaire que les Français accepteraient ou pas de souscrire, donc dans leur déclaration de revenus, en disant est-ce que vous souhaitez apporter telle somme pour essayer de régler, de diminuer la part de l'endettement. Et la quatrième, c'est d'ouvrir, de permettre l'ouverture des magasins le dimanche, mais pour cela, on augmenterait la TVA pour ces jours-ci de 2%.
D'accord. Sans faire de lyrisme particulier, on sait que l'énergie est probablement l'une des questions dont dépend l'avenir de l'humanité. Quelle politique énergétique à l'échelle de la France et des 5-6 prochaines années souhaitez-vous mettre en œuvre si demain vous êtes élu président de la République ?
Au niveau de l'énergie et de l'environnement, j'ai une idée qui peut paraître absolument ambitieuse, mais je l'assume, c'est de créer une nouvelle capitale au centre de la France qui serait 100% écologique. Et par rapport à cette capitale, je souhaiterais que tout le monde puisse participer à sa construction et notamment faire en sorte que cette nouvelle capitale, cette nouvelle ville devienne un modèle pour toutes les nouvelles villes du troisième millénaire.
Vous avez fait plaisir à Roland Castro qui voulait lui déplacer l'Elysée dans le 92, je crois.
Non, ça c'est absurde. Pour moi, c'est de la démagogie. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on crée une nouvelle capitale au centre de la France, qu'on la pense de A à Z et qu'on mette l'environnement, la question de l'énergie, au centre de la philosophie de cette nouvelle capitale. Et notamment, ça passe par une nouvelle capitale qui s'auto-alimente au niveau énergétique, où les espaces sont mieux organisés, où il y a plus d'harmonie, où justement on pense à la fois aux handicapés, on pense aux espaces verts. Et donc, c'est une nouvelle capitale où l'environnement sera au centre du dispositif de son architecture.
Ah, c'est une idée qui est très sexy, hein, même sans aborder son coût, mais ça répond pas à ma question sur l'énergie. Le pétrole ne durera pas infiniment, on est en pleine crise aujourd'hui. Le nucléaire semble être la panacée. Quelle est votre position ?
La position est simple là aussi. Je propose de défiscaliser pendant les 10 prochaines années toutes les énergies renouvelables. Je propose aussi, par rapport à la question du nucléaire, de revoir un peu ce qui a été fait depuis 30 ans sur le nucléaire et voir si on ne peut pas diminuer la part du nucléaire dans la création, dans la fourniture en énergie. Et troisième élément, je propose justement d'ouvrir tout le débat sur les nouvelles énergies qu'on pourrait mettre en place pour essayer de voir comment, avec l'ensemble des éléments que nous avons à notre connaissance sur les différentes sources d'approvisionnement en énergie, qu'elles soient naturelles ou non naturelles, comment on pourrait justement bâtir une philosophie de l'énergie qui serait complètement différente de celle qui a été faite depuis 30 ans.
D'accord. Ma question suivante était sur la politique industrielle et les grands projets. Alors les grands projets, il y en a déjà un qu'on a vu avec cette nouvelle capitale. Plus précisément donc sur la politique industrielle de la France pour les 10 prochaines années, quelles orientations, quelles grandes lignes ?
Au niveau de la politique industrielle, je considère que la France doit s'inscrire dans un cadre européen. Aujourd'hui, nous avons des départements en France où le taux de chômage dépasse les 20% parce qu'il n'y a plus aucune industrie, par exemple dans les Ardennes ou dans le nord de la France. Donc je propose d'appliquer une politique des charges sociales qui soit différente. En clair, les départements où il n'y a pas beaucoup d'industrie, qu'on puisse baisser les charges sociales pour attirer de nouvelles industries, qu'elles soient françaises ou européennes. Et dans le même temps, dans les régions où il y a moins de taux de chômage, justement d'augmenter sensiblement les charges sociales parce qu'elles ne pénaliseront pas assez les industries en question.
Et l'Europe, justement? Quelle politique européenne, quelle constitution, quelle construction européenne? Et à combien?
Je pense que le référendum qu'on a organisé en mai 2005 a été une erreur parce qu'on a mélangé constitution politique et programme économique. Je considère qu'aujourd'hui, une Europe à 25 ne pourra pas fonctionner. Donc je suis pour une confédération européenne à 25, mais ce sur quoi et ce pourquoi je vais me battre, c'est sur l'unité de trois pays en Europe. C'est la France, l'Espagne et l'Allemagne. Parce que ces trois pays réunis, c'est 200 millions d'habitants et c'est une force politique et économique considérable qui peut rivaliser à la fois avec les Américains, les Russes et les Chinois. Donc je suis favorable à une union politique entre la France, l'Espagne et l'Allemagne.
Donc une Europe à plusieurs vitesses.
Je suis pour une Europe à deux vitesses, un noyau dur entre la France, l'Europe, entre la France, l'Allemagne et l'Espagne, et un noyau plus souple que j'appelle une confédération européenne avec 25 voire 30 pays.
La recherche et l'éducation sont probablement des clés de la réussite ou de l'échec des politiques qui seront mises en œuvre. Quelles sont vos propositions concrètement sur ces deux points?
Concernant l'éducation, on voit bien que beaucoup d'argent est consacré au budget de l'éducation nationale, c'est pratiquement 22% du budget de la France, mais on se rend compte qu'il y a une très mauvaise gestion de ces ressources. Donc la chose sur laquelle il faut mettre l'accent absolument, c'est dès le premier âge, mettre en place des classes avec moins d'élèves, par exemple, dès l'école maternelle et primaire, avec des classes avec 20 élèves, mais avec des professeurs chevronnés, de façon à lutter dès le plus jeune âge contre les difficultés des enfants, notamment de familles en difficulté. Donc mettre l'accent à fond sur les premières années de la scolarité des enfants. Concernant les étudiants, je propose la chose suivante. Nous avons à peu près 80% d'une classe d'âge qui arrive au niveau du baccalauréat, mais nous avons juste après, notamment à l'université, plus de 60% d'échecs universitaires. Donc je propose deux choses. La première, développer les passerelles entre l'éducation nationale et les entreprises. Et la deuxième chose, ça peut sûrement réveiller un peu les étudiants, c'est que l'université deviennent payants. Je m'explique. Un jeune pourra souscrire donc un prêt à taux zéro pour ses études universitaires. Et ce prêt à taux zéro sera remboursable à partir du moment où l'étudiant en question réussira un premier diplôme.
Donc à nouveau, un usage du crédit.
Absolument, c'est toujours. Mais ce que vous appelez crédit, moi j'appelle ça la confiance. On ne peut pas laisser 60% d'échecs universitaires à l'université. Ce n'est pas responsable. Donc il faut responsabiliser le jeune étudiant. Et pour cela, je propose de mettre ça aux amphithéâtres dans les universités. Car les amphithéâtres, c'est un professeur pour 400 élèves, pour 400 étudiants. Ce n'est pas comme ça qu'on arrive à former la nouvelle élite du pays. Donc je considère qu'il faut fonder l'université un peu comme les grandes écoles, c'est-à-dire avec des professeurs avec maximum 35 ou 40 élèves.
D'accord. Sur l'armée, sur la défense et en termes de désarmement ou non, d'armement tout simplement, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce qu'on diminue les budgets? Est-ce qu'on révise la vision à long terme?
Au niveau de l'armée, ma position était aussi simple. Elle correspond un peu à la même vision que j'ai par rapport à la politique européenne. Je considère qu'aujourd'hui, il ne faut plus parler de défense nationale française. Il faut aujourd'hui parler de défense européenne. Et pas à 25 ou à 30, mais à 3, entre la France, l'Allemagne et l'Espagne. À partir du moment où on arrive à mettre une armée commune entre la France, l'Allemagne et l'Espagne, là on pourra parler de réorientation du budget de la défense nationale, mais évidemment en partenariat avec l'Espagne et l'Allemagne.
Ce qui sous-entend concrètement beaucoup moins de dépenses militaires.
Tout à fait, mais on peut dépenser moins à condition qu'on arrive à s'entendre avec les Allemands et les Espagnols. Et là, non seulement on aura une armée efficace, une armée forte, mais une armée qui va pouvoir appuyer une politique étrangère européenne forte et j'aimerais dire qu'il y ait une vision des relations internationales au niveau du monde entier et notamment au niveau des instances internationales.
J'essaierai d'interroger Angela Merkel sur ces questions alors.
Absolument, tout à fait. Alors j'ai eu l'occasion à l'époque d'un livre que j'avais fait avec le chef d'État du G7, dont M. Schröder, de discuter de ces aspects-là. Il était très intéressé. Donc j'espère en faire autant avec Angela Merkel.
D'accord. Un point qui me tient particulièrement à cœur, et c'est une conviction, le réchauffement climatique est l'un des plus grands enjeux auxquels nous soyons confrontés aujourd'hui. La préservation de l'environnement est une absolue nécessité. Avec la langue de bois qui aide, on retrouve ce discours un petit peu partout, mais peu de choses pratiques, pragmatiques. C'est une urgence pourtant. On parle de développement durable à toutes les sauces. Quelles sont vos positions, vos convictions, vos projets en ce sens?
Alors, la question du réchauffement de la planète est pour moi une priorité qui est qui est absolument capital. Il faut absolument lutter contre le réchauffement de la planète, mais cela ne peut se faire que si justement nous arrivons en Europe à avoir une position forte et claire sur cette question. La France toute seule ne pourra rien faire. On ne pourra jamais, dans l'état actuel des choses, faire pression sur les États-Unis, sur la Chine, concernant la question du réchauffement de la planète. Donc c'est la raison pour laquelle je considère qu'avec une union avec l'Allemagne et l'Espagne, nous aurons le poids nécessaire pour faire entendre raison et les Chinois et les Américains sur cette question. Et c'est de cette façon simplement qu'on arrivera à sortir du vœu pieux et arriver à une réalité concrète et une avancée importante.
Là aussi, les problématiques sont très liées en termes d'immigration. Quelles sont vos propositions? Puisque forcément, ce réchauffement va accentuer les flux migratoires aujourd'hui connus et les inégalités des aliments de tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait?
Concernant l'immigration, je propose d'avoir une politique qui soit à la fois juste et claire. Il y a plus de 3 millions d'étrangers en France. Je propose que ceux qui sont étrangers et qui vivent sur le territoire national depuis 10 ans puissent avoir la nationalité française de façon automatique. Deuxième élément,
systématisation.
Nous avons entre 400 000 et 700 000 sans-papiers dans le pays. C'est une situation qui n'est pas vivable. Donc je considère qu'il faut les régulariser, mais pour une durée maximale de 5 années renouvelables chaque an. Et au bout de ces 5 ans, donc c'est un contrat qui va être signé avec eux, ils auront le devoir de retourner dans leur pays d'origine. Et évidemment, on va les aider grâce à de la formation et grâce à des contacts qui seront faits entre des entreprises européennes et des entreprises africaines.
Ce qui laisse quand même peu de place au libre arbitre, de l'étranger qui aurait souhaité, dans ce cas-là, rester sur le territoire.
Vous savez, on ne peut pas, je ne vais pas paraphraser des phrases de certains, on peut avoir une politique juste, mais il faut qu'elle soit responsable. Sinon, ça voudra dire que la France est un pays ouvert, où tout le monde peut avoir la chance d'avoir du travail, de vivre un avenir meilleur. Mais si la situation économique de la France et de l'Europe s'améliore dans les années à venir, alors là, on reposera la question de façon différente, et dans ce cas-là, nous aurons une politique d'immigration beaucoup plus généreuse.
L'immigration choisie ?
Je considère que la question d'immigration doit être liée au développement économique. Si les conditions économiques nous le permettent, évidemment que les portes seront davantage ouvertes. Mais si les conditions économiques sont difficiles, il faut avoir une politique d'immigration beaucoup plus prudente. Mais encore une fois, c'est une politique que je propose qui est à la fois claire, mais en même temps qui est juste.
D'accord.
La dernière chose par rapport aux étrangers qui vivent sur le territoire national depuis moins de 10 ans, je propose de leur accorder un droit d'avis consultatif à toutes les élections. Alors ce n'est pas un droit de vote, c'est la possibilité de donner son avis à toutes les élections. Donc ce sera un avis qui ne sera pas comptabilisé au niveau des chiffres.
D'ailleurs, deux petites questions précises, mais droit de vote des étrangers, pour, contre?
Je suis contre le droit de vote des étrangers aux élections municipales, mais je suis pour un droit d'avis consultatif à toutes les élections pour les étrangers.
Et ceci n'a rien à voir avec cela, concernant le mariage, pour, contre le mariage gay?
Aujourd'hui, je considère que ces questions sont tellement sensibles qu'on ne peut pas, un homme politique ne peut pas décider de ce qui est bien ou pas bien. Je considère donc, par rapport à la question et du mariage gay et de l'adoption par des gays d'enfants, que cette question soit soumise à référendum.
Oui, même si l'hypocrisie est totale, puisqu'aujourd'hui c'est une réalité. Il suffit d'être parent seul pour pouvoir adopter.
Certes, mais à un moment donné, quand on veut avoir en charge la responsabilité d'un pays, il faut sortir de l'hypocrisie pour essayer de nous servir de ce qui fonde une démocratie, c'est-à-dire des lois. Donc je considère que par rapport à toutes ces questions sensibles, il est important qu'il y ait un débat qui soit ouvert et que la décision finale revienne aux Français lors d'une consultation, notamment par voie référendaire.
On va essayer d'être beaucoup plus succinct pour les quatre dernières questions, parce qu'on a déjà empiété très largement le temps qu'on s'était imparti. Ça doit faire un peu plus de 20 minutes que l'on discute.
C'est désolé.
Mais c'est pas grave. L'insécurité, deux, trois réformes concrètes, deux, trois propositions concrètes.
Pour la sécurité, j'ai une chose très simple. C'est que je propose d'informatiser tous les commissariats de police de ce pays, de façon à ce que les policiers passent moins de temps à faire de l'administratif et soient davantage sur le terrain. Donc à ce sujet, je propose une diminution de 10% du nombre des policiers dans le pays. Donc moins de policiers dans les commissariats, beaucoup plus de policiers sur le terrain. Deuxième élément, je propose, grâce au système qui permettra de, un, s'occuper des jeunes qui sortent du système scolaire sans aucune formation, deux, aux chômeurs qui auront, grâce au pré-emploi à taux zéro, la possibilité de retrouver un emploi rapidement, automatiquement, il va y avoir une baisse de la délinquance dans le pays. Donc, entre ces deux mesures conjuguées, on arrivera à baisser et le sentiment d'insécurité et les chiffres de la délinquance dans le pays.
Institutions, Parlement, 6ème République, vos positions, vos convictions, le poids du Parlement, la réforme des institutions.
Si on, il faut mettre une 6ème ou une 7ème République, la question est de rééquilibrer le pouvoir entre l'exécutif, donc le gouvernement, et le Parlement. Aujourd'hui, le Parlement, depuis 2002, a déposé 2900 propositions de loi, à peine 6 ont été discutées à l'Assemblée nationale. Donc il est nécessaire de rééquilibrer le pouvoir entre les uns et les autres. Et deuxième élément important, il faut baisser, dans le cadre de la formation de la nouvelle unité européenne, baisser le nombre des députés. Aujourd'hui, ils sont 577. Je propose qu'on passe à 100. Un député par département.
En termes d'aménagement du territoire, de logement, de politique à la famille, de tout ce qui pourrait améliorer le quotidien des Français, quelques propositions concrètes pour convaincre les uns et les autres d'aller plus loin et de se renseigner plus en détail sur votre programme et votre personne.
Aujourd'hui, il y a 36 772 communes de France. Dans un village sur deux, c'est-à-dire dans plus de 18 000 villages, il n'y a aucun service public. Ni école, ni poste, ni pharmacien, ni boucher, ni médecin. Il n'y a absolument rien. Donc il est absolument nécessaire d'avoir une politique volontariste, notamment par la baisse de 50% des charges sociales pour ces activités-là. Deuxième élément, généraliser la DSL dans tout le territoire. Il y a près de la moitié du territoire qui n'est pas du tout équipé en termes de fourniture ADSL. Troisième élément, il faut absolument regrouper les collectivités locales de façon à leur donner plus de moyens. Donc moins de collectivités locales, mais plus de moyens sur le terrain.
Plus de soutien et d'assistance aux familles ou au contraire moins d'assistanat?
Je considère par exemple qu'il faut absolument soutenir les familles, notamment qui ont plus de 3 enfants. Et à ce sujet, je propose la mise en place d'une carte sociale de réduction qui permettra à ces familles de plus de 3 enfants de payer les produits avec une TVA amoindrie de 3,5%.
Ma dernière question est très simple et je vais plagier un titre d'émission de TF1. Combien ça coûte? Comment on finance ça?
Eh bien, écoutez, c'est absolument incroyable, mais tout ce que je propose ne va pas coûter un centime de plus. Et au contraire, nous allons réussir à faire des réductions en moyenne de 5% par année. Donc, toutes ces mesures que je propose seront le résultat. Sont le résultat d'un audit qu'il faudra faire dans le pays, notamment, je l'ai évoqué tout à l'heure, au niveau de la dépense nationale, au niveau de l'éducation nationale, au niveau de la répartition intelligente des charges sociales et des participations de l'État dans l'économie française. Et avec l'ensemble de ces mesures, non seulement on réussit à changer positivement la situation dans le pays, mais en plus de ça, on arrive à désendetter le pays.
Rachid Nekaz, merci. J'espère que vous aurez eu l'occasion de convaincre davantage les auditeurs de l'intérêt de ces candidatures et de votre candidature, ne serait-ce que pour le débat citoyen en tout cas. Je viens d'avoir Alain Mourgui en interview. Je lui ai demandé s'il envisageait un jour un rapprochement avec d'autres candidats. Quand j'ai évoqué votre candidature, il m'a dit « On s'est rencontrés, je crois que de toute façon c'est un problème d'ego de l'un de l'autre et Rachid Nekaz veut aller au bout, quoi qu'il en soit, en son nom.
Bah, » Je lui ai déjà dit que j'ai invité d'ailleurs tous les candidats à venir à mon premier meeting que j'ai organisé le 23 mai. Je suis partisan de primaire pour les petits candidats et de façon à ce qu'il y ait un seul d'entre nous qui se présente au final.
Et vous pensez que les Français se rendraient à ces primaires de manière volontaire?
Absolument. Je considère qu'aujourd'hui, il faut faire des qualifications des petits candidats, donc que le meilleur gagne.
D'accord. Offline, j'en profite parce que je vous ai eu au téléphone. Offline, j'ai demandé à Alain Mourgui s'il n'était pas, puisque la rumeur a couru, Catherine de Médicis, au livre bien connu et qui a fait couler quand même quelques pots d'encre. Lui me disait qu'il avait le sentiment que ce serait peut-être un certain Christian Blanc, par exemple, ou plus précisément Nicolas Miguet. Il avait l'air de croire à la candidature Miguet cachée derrière ce livre. Quel est votre point de vue?
Écoutez, je ne suis pas dans le secret des dieux. Aucune information sur ce sujet.
D'accord. Vous n'êtes pas Catherine de Médicis?
Je ne suis pas Catherine de Médicis. Je m'appelle très modestement Rachid Nekaz.
Rachid, merci beaucoup d'avoir pris le temps. J'espère que vous prendrez le temps également de répondre aux commentaires des internautes, que ce soit sur Nublog ou sur AgoraVox où sera diffusé ce podcast.
Je l'ai toujours fait, je le ferai toujours.
Merci beaucoup.
Merci à vous.